Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau, un autre élément qui vous est présenté aujourd'hui. Jean-Benoît Gagné à la barre de ce beau programme et pour m'accompagner, les deux garnements. On pensait ne pas l'avoir des nôtres. Écoute, finalement, il est en mesure de se libérer. Là, t'es le seul homme avec nous, Daniel Carosella.
Oui, bonjour Jean-Benoît. Oui, j'ai pu me libérer. Ben, en fait, j'ai eu un petit coup de main.
Ouais, dame nature.
Ouais,
malgré les fingers que tu as envoyés.
Oui, il y a ça, mais j'apprécierais si elle pouvait arrêter de nous envoyer ses pellicules aussi. Ça serait bien le fun.
Ah, on lui dirait ben, merci. Écoute, les tempêtes, la neige, tannée.
Ben, elle peut toujours essayer Head and Shoulders. Ça a l'air que ça marche. Pas sur moi, mais ça marche. Ça a l'air.
Pour d'autres conseils capillaires, Daniel est disponible via son Twitter à ben, DracoADG.
Oui, c'est ça.
Un autre qui pourrait peut-être nous conseiller côté vestimentaire, côté soins capillaires, ben c'est Luc qui est avec nous. Salut Luc.
Salut Jean-Benoît. Salut Daniel, le gars qui n'était pas supposé être là.
Hello.
Non, j'ai pas vraiment de conseils capillaires ou même vestimentaires. Là,
tout est peigné sur le côté, hein, c'est ça. Hein?
Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai la chance de pouvoir juste me peigner avec mes mains finalement. Mes cheveux se placent tellement bien. c'est comme j'ai jamais besoin de brosse ou de peigne. C'est assez merveilleux. La vie est belle pour moi. J'ai bientôt 43 ans et je manque pas de cheveux sur la tête. C'est quand même pas pire.
T'es chanceux.
C'est correct.
Ouais. J'ai pas grand-chose, mais ça, je l'ai.
Ah! On prend ce qu'on a, hein?
On prend ce qu'on a. On est content, heureux et on dit merci la vie. Sauf à Dame Nature, c'est ça.
Bon, écoute, ceci étant dit, embarquons dans le vif du sujet. La réalité augmentée, c'est un show qui se centre sur la techno, le jeu vidéo et le cinéma. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de tout ça avec, entre autres, en premier lieu, nos fails de la semaine. Et Luc, t'en as un pour nous autres, un fail.
Ben moi, j'ai un win-fail.
Ouais, c'est ça, c'est comme ambivalent.
C'est comme entre les deux. Apple, au show de Salon de l'Auto de Genève, Apple a présenté, je pense au Salon de l'Auto de Genève, qu'il y a eu tellement de nouvelles, qu'Apple a présenté CarPlay, qui est une application. Bon, on va pouvoir, dans certaines voitures, la plupart des constructeurs ont l'air à s'en aller vers ça. Présentement, si vous avez une Ferrari ou des choses comme ça, vous allez pouvoir l'avoir, Volvo et tout ça. Mais ça s'en vient chez Honda, chez aussi Honda, puis Hyundai. En tout cas, ils vont pas mal tout embarquer là-dedans. C'est le fait de pouvoir contrôler son iPhone avec l'écran tactile de la voiture. Et puis, c'est vraiment l'écran de votre iPhone qui va apparaître sur l'écran tactile. Donc, vous allez pouvoir contrôler votre iPhone là-dessus. C'est un win, c'est super le fun. Enlever les yeux de sur son téléphone pour pouvoir se concentrer sur la route, puis de temps en temps, juste jeter un petit regard sur l'écran de 7-8 pouces qui est dans le tableau de bord, c'est toujours bien. Là où je pogne un peu un fail, c'est que ça va être juste pour l'iPhone 5 puis 5S. Les iPads, pas rien d'autre. Donc, je comprends le fait que en voiture, si on veut faire un appel téléphonique avec un iPhone, c'est le fun de faire ça main libre. Mais moi qui consomme du podcast à 95% dans l'auto, puis j'écoute le 5%, c'est de la radio, là. Ben, j'aimerais ça le contrôler mon iPad avec CarPlay.
Oui, c'est ça, ça pourrait être utile, mais après ça, côté mise à jour aussi, moi, c'est toujours cette fameuse question-là. Quand on parle de connectivité, là, entre la voiture et un appareil extérieur, je me demande tout le temps jusqu'à quand on va avoir du support, tu sais? Jusqu'à quelle génération, combien d'années? C'est parce que mon char, là, techniquement, je peux vouloir l'avoir en ma possession pendant 10 ans. Ou, si je le revends, est-ce que dans 5 ans, il ne supportera plus aucun appareil, puis ça va devenir un moins pour sa valeur de revente?
Bon, mais ça a toujours été pareil. Si tu achètes, je sais pas, moi, une Hyundai Poney des années 80, tu vas avoir un tape cassette dedans. Tu sais. Aujourd'hui, tu n'es même plus capable de trouver de cassette. Je veux dire, ça, la technologie avance, c'est correct. Ça dépend de la technologie qu'il va avoir là-dedans. J'ai pas lu complètement sur comment ça fonctionne et tout ça. J'ai l'intention d'avoir une auto qui a CarPlay dedans au courant de l'année, si c'est possible. Même j'en parlais justement la semaine passée avec Alex Cornelier de Mac Québec pour voir si j'étais capable d'avoir une auto pour eux autres, pour pouvoir aller y montrer qu'ils puissent l'essayer tout ça. Fait qu'on est en train d'essayer d'arranger quelque chose. Avec Alex pour qu'eux autres puissent faire ça, puis peut-être nous autres en même temps. Là.
Hey, on est-tu en train d'étendre notre emprise sur le web encore plus? Là?
Nos tentacules. Mais donc, c'est ça. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Mais si c'est juste de un peu comme AirPlay, qui avait pour bon Apple a du AirPlay, mais il y avait une technologie qu'Intel avait qui était wireless display, qui pouvait prendre une vidéo sur un laptop, un PC portable, puis l'envoyer sur une télévision qui était équipée de cette technologie-là. Donc, c'était du sans fil. Est-ce que c'est ça la technologie? C'est que le radio va être capable de recevoir un signal qui vient du iPhone en Bluetooth ou en Wi-Fi, puis simplement montrer l'écran du bidule, du hype attente à l'écran là, puis on le contrôle comme ça. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être vraiment du logiciel dans l'auto qu'il va falloir mettre à jour? Si oui, combien de temps? On sait qu'Apple supporte à peu près toujours 2 à 3 générations en arrière. Ça va-tu toujours être ça? Ça va être quoi les mises à jour? Combien de temps? Puis ça reste à voir, là. Mais c'est une technologie intéressante. Je suis juste un peu déçu que moi, avec mon iPad, j'aurais pas droit à cette technologie-là. Juste les gens avec les iPhones. Fait que c'est un win parce que j'aime la technologie que ça va apporter. J'aime les choses que ça va apporter. C'est un fail parce qu'il aurait pu étendre ça à la gamme de produits Apple et non pas juste les iPhones.
Ben, même d'autres marques de produits, ça aurait pu être intéressant. Tu sais, il y a des Android, il y a les Windows Phone aussi qui ont des bonnes parts de marché. C'est ouais. Pas tout le monde qui a des iPhones là, sur la planète, là.
Mais on s'entend que Apple ont fait un deal avec les compagnies de voitures pour dire, regarde, voici notre système. On vous l'offre, le mettre dans vos autos. Et puis, vous le voulez ou vous le voulez pas. Puis, à la liste de constructeurs que j'ai vus, c'est pas mal tout le monde qui vont embarquer là-dedans. Mais regarde, ça change toujours. Ford, qui est avec Microsoft, Windows, avec le Sync depuis des années, s'en vont avec BlackBerry puis le QNX dans les prochaines versions.
Avec le BlackBerry?
Oui, BlackBerry a acheté QNX, qui est le nouveau système d'exploitation des nouveaux BlackBerry. Là.
Okay.
Donc, ils vont utiliser ce système d'exploitation-là pour gérer Sync maintenant au lieu d'être avec Microsoft.
Est-ce qu'il y aura une exclusivité d'appareil connectable?
Je penserais pas. Non, avec Sync de Microsoft, on peut connecter n'importe quoi. Fait que je pense pas que Ford vont aller au point. À partir d'aujourd'hui, c'est juste des BlackBerry, là, parce qu'on s'entend que...
Tu viens de te couper les ponts avec pas mal de monde. Là.
Ben, 80% du marché, mettons, là, parce que BlackBerry en arrache un peu. Mais bon, c'est... Puis quand je dis un peu, c'est... je suis gentil. Mais fait qu'ils s'en vont avec BlackBerry pour le Sync. Ça va donner quoi? Dans le fin fond, Sync, c'est pas grand-chose. Pour Ford, c'est de la reconnaissance vocale, c'est de la gestion de médias. C'est pas le My Ford Touch, là. Ceux qui ont vu un véhicule Ford avec l'écran tactile et tout ça, ça c'est du My Ford Touch, c'est un système à part, ça marche avec Sync. Tandis que Sync va travailler sur QNX au lieu de travailler avec une plateforme Microsoft, puis il va toujours avoir le My Ford Touch à part. Fait qu'on va voir où est-ce que ça va nous mener. Ça va être probablement au courant de l'année prochaine. Je pense pas que ça le changement se fasse si vite que ça, là, mais... On va voir ce que ça va donner. J'espère pouvoir voir ce changement-là bientôt. Là. Mm-hmm. Le vivre.
Oui, le vivre. Ben écoute, on te le souhaite et on souhaite que ce soit agréable à utiliser.
Oui, c'est ça. Ben Sync, c'est vraiment merveilleux à utiliser. Ça marche super bien, les commandes vocales, sa réponse. J'espère juste que ça ne sera pas une coche en dessous avec QNX, mais... Ford ne peut pas vraiment se permettre de manquer leur coup. Je suis sûr qu'ils ont évalué la situation avant de dire à Microsoft, OK, bye.
Oui, non, c'est ça. Disons que c'est des accords de marché assez intenses. Merci. Moi, de mon côté, j'ai ça aussi, moi, un win-fail. Je suis comme pas sûr. D'un, tout le monde aime le bacon sur la planète. C'est l'aliment in de ce temps-là. Les magazines nous le disent. Après que nous autres, ça fait des années qu'on le savait, tu sais. Donc, le bacon, c'est l'aliment in de ce temps-là. Et il y a plein de monde qui essaie d'utiliser le bacon pour se sortir du lot et offrir des produits intéressants qui vont, tu sais, marquer le marché. Et la nouvelle patente, c'est comme un réveil matin. que tu branches à ton iPhone dans la prise électrique dans le bas de l'appareil. Tu branches ça et tu as donc la possibilité de te réveiller avec l'odeur du bacon grillé. Ah. Intéressant quand même, hein?
Il y avait une compagnie qui avait sorti un parfum au bacon, puis Frank the Tank de Radio Talbot, on avait acheté une bouteille, puis il avait l'air à dire que ça sentait plus le bacon pas cuit que le bacon.
OK. Ben, je sais pas là, pour l'odeur de cet appareil-là. Ça, pourquoi je dis que c'est un win puis un fail? Parce que d'un, c'est un win parce que le bacon est bien, bien cool. Sauf que je me dis que c'est un fail parce que moi, le moment où est-ce que je recharge mon appareil, c'est habituellement quand je dors. Et de jour, quand je suis réveillé, j'en ai de besoin.
Ouais.
La question que je me pose, j'ai pas la réponse. Et si c'est une mauvaise réponse qu'on me donne, ça devient un fail. C'est ce bidule-là qui se branche dans la prise électrique du iPhone. Est-ce que tu peux brancher l'alimentation électrique au mur dedans?
Parce que si c'est à travers, genre.
Ou à travers, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que pendant la nuit, pendant que j'utilise pas mon appareil, je peux pas recharger mon appareil.
Ouais, non, c'est comme pas pratique, tu sais.
Alors, voilà. J'ai hâte de voir le développement de ce produit-là. Si jamais il va être offert pour de vrai, c'est via Gizmo que j'ai trouvé ça. Il y a affairedegars.com qui a relayé l'information en français. Donc, je me demande là, si ça va devenir un fail suite à ce dispositif-là physique, parce que c'est un truc physique que tu rajoutes à ton appareil. Si on ne peut pas brancher à nuit pour recharger l'appareil, déjà qu'on a de la misère à faire une journée avec un iPhone, puis bien des téléphones intelligents, mais particulièrement avec un iPhone, si en plus, la nuit, tu peux pas le brancher, c'est pas pratique ben.
Ouais, mais moi, je te mets ça dans la liste des fails de suite, parce que moi, si tu me réveilles avec une senteur de bacon, t'es mieux de livrer.
Oui, c'est ça.
Avoir sur la table quand j'ai l'heure de déjeuner. Me réveiller avec le senteur de bacon, puis me dire « Ah, ouais, c'est vrai, c'est juste mon réveil matin, je pense que je le passe à travers le châssis le premier matin.
» Moi, je m'excuse, là, mais vous me mettez ça dans le nez, puis c'est clair que je croque ma blonde. C'est ça. Ça serait physiquement dangereux pour m'adulciner que d'avoir cette habitude-là.
Tu sais, c'est clair que, tu sais, comme le fameux moment là, où est-ce que t'es simulé en train de dormir puis te réveiller, là, entre les deux, là. Puis là, tu sens le bacon, tu fais comme « je prendrais une croquée », tu sais. Puis t'as le bras de ta blonde pas loin, bang, c'est fait. On vient d'avoir de la violence conjugale tout d'un coup.
Et cannibalisme.
Ah oui, non, c'est cannibalisme. Puis moi, en plus, avec la grand gueule que j'ai, je pense que je risque d'y avaler un membre.
Ouais, c'est ça. Il y a un pied facile qui rentre là-dedans. Hein?
Ah, tout à fait. le pied, puis je pense que le tibia aussi pourrait passer.
Facile, facile. Petite demoiselle et gros bonhomme. Voilà.
Merci, Jean-Baptiste.
Hey, gros bonhomme, on va y aller avec toi pour la première critique du jour. T'as joué avec South Park, leur fameux RPG très attendu, le bâton de la vérité. Sur quel support, premièrement, t'as débarqué là-dessus?
J'ai pu jouer sur la PlayStation 3. Donc, on sait que c'est disponible sur PC, sur Xbox 360. Je pense sur les consoles de nouvelle génération, mais je suis pas certain.
De ce que je vois, non, ce n'est que ancienne génération. Mais peut-être que éventuellement, il y aura des versions HD ou Definite, ou tu sais, comme on fait avec bien des jeux de ce temps-là.
Ouais, ou Game of the Year, les futurs ensembles téléchargeables, s'il y en a. Mais oui, c'est un jeu qu'on attendait parce que, dans le fond, ça s'est développé par Obsidian et à l'origine, ça devait être développé pour THQ. Donc, on le sait, THQ, ça a tellement bien été leur affaire qu'ils ont fait faillite. Fait que, dans le fond, le futur du jeu était un peu dans, tu sais, en géopardie. On savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver avec South Park The Stick of Truth. Finalement, c'est Ubisoft qui a mis la main dessus. Et je pense que c'est un très, très bon coup d'Ubisoft parce que c'est un jeu... Honnêtement, tu sais, je connais un peu le passé d'Obsidian. C'est un studio qui a l'habitude de nous offrir des jeux de bonne qualité, mais qui manque d'optimisation. Puis, si les gens veulent avoir une image un peu plus claire de ce que je veux dire, rappelez-vous Fallout New Vegas.
Ouais.
Donc, Fallout New Vegas, c'était un bon jeu, mais c'était rempli de bugs.
Ouais, c'est ça. Il manque un peu de polissage.
C'est ça, exactement. Puis c'est ça le gros problème d'Obsidian. C'est aussi les développeurs dans le temps de Star Wars The Old Republic 2. Non, pas The Old Republic, c'était... désolé, le nom m'échappe.
KOTOR? Là, du jeu.
Ouais, KOTOR 2. Non, Knights of the Old Republic.
Moi, j'ai dit Swatar, mais Kotar de base, c'est correct. Là.
Ah, c'est Kotar. Ben, merci, Jean-Benoît, d'avoir sonné Kotar dans mes oreilles. Bon. C'est Kotar.
Voilà.
Donc,
continue, donc, jeune homme.
C'est ça, je continue. Donc, dans le fond, c'est aussi un jeu qui avait son lot de problèmes. Et je m'attendais à ça avec South Park The Stick of Truth. Je m'attendais à un jeu peut-être qui manquait de polissage. Et fort heureusement, c'est vraiment pas le cas. C'est un jeu sur lequel Obsidian a bien travaillé, a rendu un univers de South Park qui est vraiment fidèle à la série. Puis c'est pas étranger au fait que les scénaristes, les créateurs de South Park a été vraiment impliqués dans le jeu. Et on le voit surtout du côté du scénario. Parce que si vous aimez pas l'humour pipi caca sans vomi et autre belle chose de la vie comme ça, ben c'est clair que vous aimerez pas
passer ça. Passez votre tour.
Ah, c'est clair. Écoutez, si vous aimez pas South Park, là, passez votre tour parce que le jeu est une continuité de la série. En fait, c'est comme un gros épisode de peut-être 12 à 15 heures dans lequel on joue.
Mais donc, Daniel, moi, ça me fait penser, là, tu dis humour, pipi, caca, poêle, patate et tout le reste, là, ça me fait penser à Duke Nukem Forever. Puis une des grosses critiques qu'on avait sur ce jeu-là, c'est les jokes de pipi-caca, on est rendu ailleurs, tu sais. Comment qu'on peut, pas la même année, là, mais dans la même période, là, dans la même génération, nous dire, Duke Nukem Forever, quel humour comme de mauvais goût, on est dépassé, puis arriver avec South Park, qui vise à peu près le même style d'humour, puis là, whoop, ça fonctionne.
Parce que un, c'est bien fait, mais deux, parce que
South Park... Une joke de... Pipi, caca, poêle, bien fait, ça se peut?
Ben, tout à fait. Moi, je vais te dire, quand tu rentres dans l'anus d'un homme...
Je suis sarcastique ici, hein, soit dit en passant.
Ah, en passant? Oui. Ben, moi, je te le dis pareil que ça arrive dans le jeu, ça, cette séquence-là. Fait que, non, mais en fait, c'est parce que c'est vraiment absurde. Même South Park, là, c'est très absurde comme univers. Mais en même temps, je te dirais, il y a quand même des grosses critiques sociales.
Énormes.
Ben oui.
Énormes critiques sociales.
D'ailleurs, un des fondements du jeu est une critique envers le phénomène de Facebook. Je vous explique, je rentre un peu dans l'histoire. Vous êtes un nouvel arrivant dans la ville de South Park et vous êtes muet. Mais bizarrement, vous avez une facilité à vous créer des amis Facebook là, comme personne n'en a vu. Puis d'ailleurs, en tout cas, ça tourne beaucoup autour de ça. Et ce que vous allez devoir faire au début, c'est sortir dehors et vous faire des amis. Déjà là, tu sais, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais quand Facebook est paru, le but, là, c'était vraiment d'avoir le plus grand nombre d'amis. Donc, tu sais, c'était comme le gars ou la fille qui avait le plus grand nombre d'amis, puis si t'avais 80 amis tandis que tout le monde en avait 200, ben, t'étais tellement poche.
Ouais, il y avait une compétition puérile. C'est très ordinaire, c'est très... c'est moi le plus fort, tu sais.
C'est ça. C'est sûr que si tu t'attardes juste aux jokes de fesses dans South Park The Stick of Truth, tu vas avoir l'impression que c'est un jeu super juvénile, mais si tu vas plus loin que ça, tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de critiques.
Quoi? Il y a un deuxième degré?
Ouais, il y a un deuxième degré, ben oui.
Mon sarcasme est comme il est comme vraiment allumé là, de ce temps-là. Là.
Écoute, c'est bien correct comme ça. Mais en fait, c'est là où le jeu est intéressant. Quand tu vois le deuxième degré, quand tu vas plus loin que la surface, tu vois qu'il y a beaucoup de critiques sociales. Mais c'est clair que vous allez retrouver le même humour que dans South Park. Oui, il y a des sondes anales d'extraterrestres. C'est un classique de South Park. Il y a une scène qui m'a sérieusement perturbé. Je vous la décrirai pas, là, mais disons que ça implique deux adultes et un taux d'hormones assez élevé.
OK.
Donc, faites votre conclusion, là, mais...
C'est juste assez vague pour pas qu'on comprenne.
Non, c'est ça. mais disons que vous avez cette scène-là en arrière-plan, et même dans le combat, là, c'est un combat... En fait, ça finit contre un boss, et vous vous faites écraser par des parties intimes.
OK.
Ça reste familial.
Oui, c'est ça.
Ça reste... très familial.
C'est ça la grosse force, c'est que c'est familial. Tu sais, c'est...
Ouais, pas le jeu.
Ah, OK.
Mais en fait, il y a plusieurs lecteurs ou puis auditeurs dans le cas de la réalité augmentée qui m'avaient demandé est-ce qu'on finit par traverser la fameuse frontière du Canada qu'on voit dans certaines images du jeu. Je vous dirais que oui. Puis quand vous allez la traverser, vous allez voir, c'est... En tout cas, tu sais, quand on dit qu'on est un... Des fois, là, les Américains trouvent qu'on est un peuple d'arriérés, là, ben, ça prend vraiment tout son sens, mais je vous dis pas en quoi, parce que je veux pas vous gâcher le plaisir, là. Mais c'est... En même temps, c'est ça qui fait la beauté de Stick of Truth. C'est le fait que c'est vraiment absurde, mais c'est super drôle. J'ai ri plusieurs fois dans le jeu. Faut dire que j'aime South Park à la base, mais parce que c'est une continuité de la série, parce qu'il y a tellement de situations niaiseuses, là, on va se le dire comme ça, c'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est ce qui fait sa grande force.
Dis-moi, Daniel, tu le dis, tu aimes la série, on est dans l'univers, on le retranscrit bien, l'humour est là, tout ça est présent, mais à la base, est-ce quand même un bon jeu? Est-ce que les mécaniques fonctionnent? On parle d'un RPG, là, donc un style qui ça fait des années que ça existe, qu'il y a quand même certains codes, qu'il y a certaines façons de procéder. Les amateurs de ce type de jeu-là, s'ils débarquent sur South Park de Stick of Truth, vont-ils s'y retrouver? Vont-ils apprécier quand même le jeu sans l'enrobage South Park?
Le jeu, en fait, se divise en deux dimensions. Je vais commencer par celle qui est peut-être la plus classique, c'est-à-dire les combats. Le jeu propose un système de combat à tour de rôle. C'est en fait à tour de rôle, mais réactif, dans le sens que vous devez appuyer quand même sur un bouton quand vous allez voir une petite lumière pour que votre attaque soit plus puissante. Puis même chose, quand les ennemis vont attaquer, vous devez appuyer sur un bouton pour bloquer. Donc c'est un système assez classique. Ça fonctionne. Il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup d'attaques qui sont niaiseuses. Je vous donne un exemple. La magie, parce qu'il y a de la magie dans le jeu, la magie est remplacée par les pets. Donc, plus vous pétez fort et plus vous faites de dommages à votre ennemi. Et moi, j'ai beaucoup aussi aimé la technique spéciale, le lattage de couilles. Donc, c'est ça. Mais c'est ça.
Si je devais faire de la censure à cette chronique-là, il y aurait des bips partout.
Ah, c'est clair. Mais tu sais... En même temps, ça donne un beau portrait du jeu.
Non, c'est ça. Les gens qui nous écoutent savent à quoi s'en tenir.
Alors, tout à fait. Mais tu sais, c'est fonctionnel. Je vous dirais par contre, les combats, à un moment donné, ça devient un peu redondant dans le sens que c'est pas mal toujours la même chose. On attaque pas mal toujours avec les mêmes techniques. Les ennemis frappent très fort. C'est pas un jeu qui est nécessairement difficile, mais c'est un jeu où on perd beaucoup de points de vie assez rapidement. Les ennemis frappent fort. Je vous le dis, il y a entre autres Al Gore, qui est un personnage dans la série, mais qui aussi est un boss dans le jeu. C'est un mini-boss et je vais vous dire, c'est le plus tough du jeu au complet, incluant le boss final. Donc, il est pas facile, il frappe très fort. C'est un jeu qui, honnêtement, si vous êtes nouveau dans les jeux de rôle, vous risquez de mourir assez souvent. Mais pour le reste, vous allez voir que moi, je vous recommande fortement d'utiliser les modificateurs d'état, dans le sens que, exemple, si vous pétez sur un ennemi ou si vous utilisez un bâton avec un facteur d'écœurement, ben vous allez rendre votre ennemi malade, mais littéralement malade, et ça va lui enlever beaucoup de points de vie. Même chose si vous le faites saigner, vous allez voir que si un ennemi est résistant à vos attaques physiques, si vous le faites saigner ou si vous l'écœurez, ben il va perdre beaucoup de points de vie de cette façon. Donc c'est deux petits trucs que je vous donne, mais ça demeure quand même assez classique. Puis c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, les combats deviennent redondants parce que c'est pas mal toujours la même chose. Mais je dois dire que dans la deuxième portion, les ennemis se transforment avec une espèce de slime vert un peu bizarre. Et bizarrement, ils se transforment en zombies qui parlent allemand. Donc, et là, on vous dit, ah, c'est tellement surfait, genre le monde qui parle allemand puis qui sont agressifs. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle de voir tous les ennemis, incluant des fœtus et des chats, parler allemand. Là. C'est drôle.
Est-ce que le jeu est en français ou seulement en anglais?
Non, il est seulement en anglais, sous-titré en français.
OK.
Donc, c'est les voix originales du show. mais il parle quand même assez vite là, dans le show. Donc, c'est sous-titré en français, mais vous allez devoir vous contenter des voix en anglais. L'autre dimension du jeu que je voulais parler, c'est tout l'aspect de l'exploration. Puis honnêtement, c'est ce qui m'a vraiment fait accrocher au-delà de l'histoire. Là, c'est ce qui m'a fait accrocher dans le jeu. Parce que oui, vous avez le pouvoir de vous faire des amis, puis tu sais, vous parlez jamais là, dans le jeu, mais vous avez le pouvoir de vous faire des amis Facebook super rapidement. Et dans le fond, un des buts du jeu, c'est de récolter le plus d'amis possible. C'est vraiment le fun de juste explorer South Park, de parler avec des personnages connus de la série, de les ajouter à ses amis, de faire des quêtes secondaires pour ces personnages-là, puis de finalement d'en faire des amis. Puis d'ailleurs, plus vous faites d'amis, plus vous allez débloquer d'aptitudes spéciales pour votre personnage. Donc, c'est comment joindre l'utile à l'agréable. Un élément que j'ai trouvé un peu décevant dans le jeu, puis tu sais, on parlait du manque d'optimisation. Au niveau des combats, bloqués, ça peut être assez difficile. Surtout quand les ennemis attaquent plusieurs fois d'affilée. Quand il y a des rafales de coups, c'est pas évident à bloquer. Surtout si pour les nouveaux, là, pour les joueurs un peu plus occasionnels, c'est pas très évident. Vous allez voir que vous allez vous faire toucher. Vous allez peut-être pas mourir, mais vous allez au moins vous faire toucher à quelques reprises. Autre chose aussi, les menus. C'est pas les menus les plus conviviaux, les plus user-friendly en bon français que j'ai vu. C'est des menus qui sont assez austère, ça peut être difficile de trouver ce qu'on recherche dans les menus. C'est des menus super simples, les couleurs sont pas très belles non plus. Donc ça, c'est un peu décevant aussi à ce niveau-là. Et ce que j'ai trouvé particulièrement fatigant, c'est que le jeu met de l'avant beaucoup de costumes. Donc vous allez avoir différents costumes à trouver dans le jeu qui servent d'armure. Et le problème avec ça, c'est que quand vous avez un événement qui vous donne un costume, ben le personnage change de costume automatiquement. Mais le costume que vous allez avoir n'est pas nécessairement le plus puissant ou le meilleur que vous allez avoir dans votre inventaire. Donc, c'est un peu fatigant de devoir, à chaque fois qu'il y a un événement, retourner dans le menu, changer encore tout notre habillement pour avoir le meilleur de notre inventaire. Donc ça, un petit bémol à ce niveau-là.
Ça aurait dû être... juste le demander, veux-tu le porter maintenant?
C'est ça, exactement. On aurait pu faire ça.
Tu sais, ça aurait été tellement pas compliqué, là.
Non, effectivement, mais ça fait partie du manque d'optimisation.
Mais ça, écoute, on me l'a pas demandé, moi je les aurais dit, hein? Mais bon, on les consulte pas.
Effectivement.
On les consulte juste après, pas avant.
Ils ont oublié de t'appeler.
Oui, je sais.
Mais Jean-Benoît, ils t'ont écouté parce qu'il n'y a pas de niveau sous-marin.
Ouais!
Je te le dis. Ben, parce que là, je veux juste en finir avec les bémols. J'en ai deux derniers. L'avant-dernier bémol, c'est concernant les combats, encore une fois. Je vous ai dit que ça peut être assez difficile de bloquer. L'autre problème aussi, c'est qu'à un moment donné, les combats deviennent hyper débalancés, mais en votre faveur. Je vous dis pas nécessairement c'est quelle arme, mais dans le magasin de Jimbo, vous allez pouvoir acheter une arme qui va faire en sorte que vous allez devenir surpuissant. Puis ça, pas nécessairement à la toute fin du jeu, là. Donc, il y a une arme achetable, là, et je vous le dis, à fesses, mais pas qu'à peu près. Donc, c'est un peu poche parce que ça fait en sorte que les combats sont hyper faciles. Même le boss final est d'une difficulté ridicule avec cette arme-là.
Alors, tantôt, tu disais, les gens qui sont pas nécessairement des amateurs d'RPG, il y a un certain défi. Ça amène que le défi, en plus, il est au début du jeu et non pas à la fin quand tu as tout appris mécanique, tu sais.
Non, c'est ça. Puis en plus, à la fin du jeu, vous allez probablement avoir cette arme-là en question là, dont je parle. C'est une arme trop puissante, c'est pas bien balancé à ce niveau-là. Les ennemis, le problème, c'est qu'on n'a pas tenu en compte nécessairement la puissance des armes. Je sais pas, il y a un débalancement qui se crée à ce niveau-là.
Okay.
L'autre problème aussi que j'ai trouvé, c'est pas au niveau visuel. Au niveau visuel, j'ai adoré le fait qu'on ait conservé le style de South Park. Les personnages bougent comme dans South Park. Tu sais, ils sautent, là, au lieu de marcher. Mm-hmm. Puis c'est comme des petits cartons. Ça, j'ai adoré ça. Le problème, c'est que l'engin du jeu fait en sorte qu'il y a des ralentissements.
Ah!
Et quand il y a des ralentissements, c'est pas des ralentissements qui vont gâcher votre expérience. Mais quand vous avez des ralentissements, surtout dans les combats, et qui font que vous avez un système de combat qui est réactif, ben ça devient un peu dur de finalement appuyer au bon moment sur le bon bouton quand il y a des ralentissements qui viennent vous gâcher le rythme. Bémol.
Ouais, non, très, très ordinaire, là.
C'est comme je vous dis, c'est, ça gâchera pas votre expérience. Vous allez aimer South Park The Stick of Truth à condition d'aimer l'humour de la série.
Sais-tu si ce problème-là, c'est récurrent aux autres versions, aux autres consoles et endroits où est-ce qu'on peut jouer?
Moi, j'ai lu des commentaires comme quoi c'est présent dans toutes les versions. Donc, c'est un manque d'optimisation de l'engin, je pense.
OK.
Et c'est un peu dommage parce que ça se présente beaucoup dans les combats. Et puis, ces petits ralentissements-là, ben, le problème, c'est que c'est ça, le temps de réaction peut être affecté. Mais pour le reste, vraiment, là, c'est un très bon jeu. C'est très, très le fun à y jouer. Il y a un côté aussi au niveau de l'exploration. Il y a des puzzles à compléter avec les techniques que vous allez apprendre au fil du jeu qui vont entre autres vous donner accès à plus d'endroits au sein de South Park. Je pense par exemple au fait que quand vous allez confronter les gnomes voleurs de Bobette, vous allez pouvoir apprendre une technique qui va vous rapetisser puis qui va vous permettre de passer dans des trous de souris ou en tout cas dans les murs ou des actions à faire. C'est vraiment le fun. Mais c'est clair, je vous le dis, si vous êtes le genre facilement offensé, là,
ouais, c'est ça. Soyez-en avertis, puis décidez de jouer ou non en conséquence de tout ça.
Ah, ça, c'est clair. Je vais juste vous donner un dernier exemple si vous n'avez pas été encore convaincu. Il y a une quête secondaire où on vous demande de régler le problème d'itinérance à South Park. Et comment on vous demande de régler ça? Ben, c'est en battant les itinérants pour finalement les faire crever pour que la ville n'ait plus de problème d'itinérance. Donc, c'est ce genre d'humour-là.
Pas les faire fuir. Non, pas les loger. Non.
Non, les battre à mort.
Ben oui.
Donc, je vous le dis, c'est ce genre d'humour-là. Mais, tu sais, la série est à controverse, donc le jeu aussi l'est. Puis honnêtement, ça fait, c'est pas un défaut, au contraire, on a vraiment conservé l'esprit, puis ça fait en sorte que c'est un bon jeu tiré de
ça. A l'air que ce jeu-là est approuvé par Gabrois.
Marie-Lou Wolfe, vas-tu poursuivre Obsidian?
Ils disent pas son nom, fait que...
Non, c'est ça. Mais... T'sais, je le sais qu'il a été censuré en Europe et ouais. En Australie. Si vous n'avez pas eu la chance de voir l'image de censure, allez voir ça, ça vaut la peine. Mais c'est pas nécessairement pour rien. Il y a des scènes qui vous risquent un peu de vous rendre mal à l'aise. Mais c'est ça. Si vous aimez South Park, là, allez-y. Est-ce que c'est un jeu qui vaut 60$? Ça, c'est matière à discussion parce que, comme on se le disait hors d'onde, c'est pas le jeu le plus long non plus. Personnellement, j'ai pas 20 heures au compteur et j'ai fini à peu près tout. J'ai fini toutes les quêtes secondaires, la quête principale. J'ai récupéré les 30 Chipokomons, donc qui sont les jouets populaires là, dans South Park. Il me reste juste quelques amis à trouver. Et quelques trophées aussi à débloquer. Mais pour le reste, j'ai tout fait et j'ai même pas 20 heures au compteur. Donc, c'est pas très long pour un jeu de rôle. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'attendre une baisse de prix? Ben, c'est vous qui décidez.
Mais ça reste trois fois la durée de temps d'un Call of Duty.
Ah, absolument. Je suis d'accord.
Puis, tu sais, en même temps, oui, on dit que c'est un peu court pour un RPG, mais souvent, ce qu'on lance contre les RPG comme étant les plus gros défauts, c'est que souvent l'histoire se perd, puis c'est souvent en raison du temps de jeu qui est beaucoup trop long. Puis là, ben, tu perds le fil dans l'histoire parce que ça t'a pris genre 20 heures à aller augmenter ton personnage, faire ce qu'on appelle du grinding pour avoir le niveau pour pouvoir continuer, tu sais.
Ah oui, mais dans South Park, c'est que l'histoire est tellement niaiseuse que, tu sais, c'est l'histoire, en fait, c'est le village de South Park à travers l'imagination des enfants, tu sais, il se crée des conflits, il y a comme un gros conflit entre les elfes puis les humains qui est comme l'équivalent d'un conflit entre Kyle puis c'est-tu Kyle son nom? Ouais, c'est ça.
Kyle puis Cartman,
tu sais, fait que c'est super niaiseux. L'école est transformée en donjon par les enfants. Dans l'école, à un moment donné, les bêtes à tuer les ennemis, c'est des roues qui sont guidées par M. McKay. Donc, tu sais, c'est toute l'imagination là, des enfants de South Park, l'histoire. Mais vous allez voir, ça prend des tourneurs vraiment niaiseuses, des tourneurs genre qui vont vous faire rire parce que c'est vraiment absurde. Puis la fin, ben c'est digne d'un épisode de South Park.
C'est ça. Mais tu sais, ça reste ni vu ni connu. Ça fait 17 ans que ça dure. Là.
South Park. Puis moi, je vous le dis, j'ai parlé avec plusieurs amateurs de la série de South Park après avoir publié mon test, pour voir des connaisseurs de la série. Puis ils ont adoré le jeu là, parce que justement, ça conserve l'essence puis l'esprit de la série.
Ça, puis j'ai lu un peu, puis c'était un des prérequis de Trey Parker puis Matt Stone, là, les deux créateurs de South Park. C'était faut que ça ait l'air d'un épisode de South Park. Si vous n'êtes pas capable de recréer le style d'animation qu'on fait, on le fait pas. Puis ils ont participé pleinement à ça. Fait que c'est pour ça que c'est probablement si bon que ça. C'est que les créateurs ont participé. T'sais.
Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est un bon coup d'Ubisoft d'avoir récupéré ce jeu-là de la faillite de THQ. J'espère que le jeu va avoir le succès qu'il mérite. Puis d'ailleurs, si vous pouvez mettre la main sur l'édition de collection, la petite figurine, ben, en fait, la petite figurine, c'est quand même une bonne figurine là, de Cartman en magicien. Là. Elle est belle. Donc voilà.
Hey, je voulais te glisser un petit mot là-dessus. Je suis en train de faire une petite recherche pendant que tu jases. RPG, ça fait. Je dis pas que c'est nécessairement semblable, mais ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans World of Warcraft. Et dans un des épisodes, on avait parodié un peu l'univers de World of Warcraft dans South Park. Et on avait créé une fausse arme, l'épée des mille vérités. Et on avait fini par la faire dans le jeu. La gang de Blizzard qui l'avait transposée dans le jeu pendant une certaine période de temps, cette épée-là. Est-ce qu'on la retrouve dans le jeu de South Park?
Bonne question. En tout cas, c'est pas l'arme la plus puissante, ça, je vous le dis. Okay. Je crois que oui, on peut l'acheter, mais je suis pas sûr à 100%. Parce que honnêtement, quand j'ai pogné l'arme la plus puissante, je me foutais des autres. mais je pense que oui, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil aux épisodes plus geeks. Présenté dans South Park. Tu parlais de celui de World of Warcraft, puis il y a aussi celui du Seigneur des Anneaux. Là.
Ouais.
Donc, y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil. Je vous le dis, si vous êtes un fan de la franchise, c'est ça que vous allez aimer. Vous allez vraiment aimer tous les clins d'œil, puis vous allez apprécier parcourir l'univers du jeu juste pour voir ça va être quoi le prochain clin d'œil qu'on va me présenter. Puis il y a aussi plusieurs parodies de jeux et puis de phénomènes culturels. Là. Fait que, bref, un jeu qui m'a surpris.
Du beau fan service, c'est le fun ça.
Ouais, ouais.
Si tu y allais avec une note...
8.5 sur 10. Ah, très bon jeu.
Très bonne note.
Ben moi, en tout cas, que vous l'achetiez quand il va y avoir une baisse de prix ou que vous l'achetiez maintenant, je pense que c'est un jeu que vous devez essayer juste pour le scénario. Puis je vous dis rendez-vous à la fin, ça vaut la peine.
Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour The Stick of Truth, South Park. Excellente critique. Merci, Daniel.
Ben, ça fait plaisir.
C'est sacrifié pour la cause.
Oh, tellement un sacrifice qui m'a beaucoup demandé. Ah oui, il a fallu jardir du vomi, des pets puis du sang à la TV.
Hey, je me demande s'il y en a dans le film à Luc. Je penserais pas, ça semble être assez familial. Ça s'appelle Mr. Peabody et Sherman. Sincèrement, je vois l'affiche du film, j'ai ça en avant de moi, et ça me dit que dalle de ce personnage-là. Donc, il va falloir que tu m'éduques là-dessus, mon Luc.
OK, Mr. Peabody et Sherman, bon, c'est... Personnellement, je vais vous dire tout de suite, ils ont commencé à mettre la publicité à la télévision pour ce film-là, puis à chaque fois que je voyais la pub à la télévision, je me disais, ah, ça va être une bonne affaire à regarder à la télévision, je veux tellement pas aller voir ça au cinéma, ça a l'air tellement du gros réchauffé, puis ça a l'air juste un prétexte pour amener les enfants au cinéma. Puis finalement, mon gars m'a eu. On est allé vendredi passé voir ça. Puis ça tombait la même journée que Nintendo faisait un événement pour Yoshi's New Island.
Hey, on peut-tu se permettre de faire une petite escapade là-dessus? Je voulais pas le mettre dans les fails, mais sincèrement, de faire un événement. C'est le fun. Nintendo sont très impliqués au Québec. On les adore là-dessus. Pour une fois qu'il y a une entreprise qui donne de l'importance à ce qui se passe au Québec puis à ce que les joueurs peuvent amener amené à l'entreprise. Mais il me semble qu'en plein mois de... C'était au mois de février, fin février que ça se passait, de faire un événement extérieur dans un stationnement de centre d'achat en plein hiver, c'est peut-être pas le meilleur call.
Ben, c'est un, ils ont fait ça dans la semaine de relâche du mois de mars. Fait que donc, c'était pour les enfants. Puis oui, c'était à l'extérieur, mais c'était dans un camion cube chauffé. Chauffé, au moins, il faisait pas froid. Là, on était bien à l'intérieur, on pouvait jouer avec les 3DS, tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. La seule chose, peut-être, il aurait pu se placer un peu plus facile à voir, là, parce qu'il était vraiment mal placé dans le stationnement du Colossus à Laval, mais bon...
un camion dans un stationnement, c'est assez commun. Bon, oui,
mais c'est ça, j'aurais... Sur le coup, j'aurais pensé qu'il aurait fait ça à l'intérieur du Colossus ou, tu sais, il aurait fait un événement avec le cinéma et tout ça.
Ben ouais.
Finalement, c'était à l'extérieur. Puis, même au début, je suis arrivé, je cherchais à la place, puis je la trouvais pas. Puis là, je rentre à l'intérieur, je demande aux personnes au Colossus, excuse, il est supposé avoir quelque chose de Nintendo ici aujourd'hui, êtes-vous courant? Puis elle me regarde comme un chevreuil sur l'autoroute quand il y a un camion de 40 pieds qui s'en vient pour les foirer.
Les yeux grands ouverts avec l'esprit vide, là.
Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ça va pas bien. Là, elle a dit, attends, je vais demander à mon gérant. Le gérant, la même affaire, mais tu sais, le son du chevreuil qui sait pas quoi répondre à l'autre bout. Je me suis dit, OK, bon, c'est beau, je vais rechecker mon calendrier. J'avais annulé mon iPad, je regarde. Ben, pourtant, c'est bien aujourd'hui. C'est bien marqué au Colossus. Puis là, j'appelle Marie-Michel qui travaille avec Julie Gagnon. Puis je laisse un message.
Hey, c'est pas drôle.
Je suis au Colossus, puis je vois pas la place. Elle me rappelle, elle dit oui, elle dit c'est à l'extérieur. Regarde, la caravane est assez grosse, puis ça, mais il s'était placé en arrière du Colossus. Donc là où personne stationne vraiment. Puis même l'autre côté, sur le Sky Venture, où on peut aller faire du saut en parachute, mais pas de parachute. Là, c'est une grosse turbine qui vous tient dans les airs.
Ouais.
À côté de ça, il y a un restaurant qui s'appelle l'Académie. Il y a un EB Games. Il était dans ce stationnement-là, comme à côté. Fait que finalement, on l'a trouvé, puis on est allé un peu, mais je trouve qu'il aurait pu se placer un peu mieux, mais peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement les autorisations pour se mettre en avant. C'était une journée quand même assez occupée. Le stationnement était quand même assez plein pour le cinéma. Le cinéma était quand même assez plein. Fait qu'ils ont peut-être eu des limites dans ce qu'on peut faire. Mais bon, j'ai réussi à essayer Yoshi's New Island. Puis je vous en parlerai plus tard, parce que j'ai eu ma copie aujourd'hui de Julie. Livraison express. J'étais tout surpris. C'est arrivé au bureau.
En plus?
Fait que j'ai reçu ma copie. Je vais faire jouer à ça pendant les deux prochaines semaines. Puis je vais vous faire une petite critique. Ouais,
t'es chanceux, je suis même pas la mienne.
Toujours les mêmes qu'on toutes.
Puis pour l'avoir essayé, c'est pas mal amusant. Fait que je vais vous en reparler. Là. C'est le fun, c'est bien fait. Il y a plusieurs modes de jeu. Mais c'est un film que je suis en train de faire. Jean-Benoît, qu'est-ce que tu...
Non, on parle de jeu. Si vous voulez m'envoyer des jeux... Hein,
Je suis vieux et un peu sénile. Là. Commence pas à me faire des affaires de même. Je vais complètement oublier de quoi je voulais te parler.
Ouais, donc, un film.
Monsieur Peabody et Sherman, on peut-tu retourner à la chose en cours?
Non, je veux que tu me parles de Yoshi. Premières impressions. Non, c'est pas vrai. Vas-y.
Premières impressions, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai pas joué longtemps, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. M'en parler plus tard.
Okay.
Monsieur Peabody et Sherman, bon, c'est un dessin animé qui existe depuis des années. Si vous allez vous promener dans les grandes surfaces ou des magasins qui vendent des vidéos, ça existe. C'est sûr que ça existe beaucoup plus là, parce qu'ils ont sorti ça des boulamites pour vous vendre ça à cause que le film est au cinéma. Tu sais, le marketing, là, ça tombe super bien. Mais bon, c'est quoi Monsieur Peabody? Ben, Monsieur Peabody, en tant que tel, c'est un chien hyper intelligent. C'est, selon l'histoire, l'être vivant le plus intelligent sur la planète. Donc, c'est pas un être humain, c'est lui, un chien, qui est l'être le plus intelligent sur la planète. Bon, Monsieur Peabody, c'est un chien, quand il était chiot, personne n'en voulait parce que c'est un chien qui parle. Donc, les gens qui allaient adopter un chien dans un pet shop ou dans un chenil, puis ils voyaient un chien qui parle, c'était comme intimidant un peu. Personne ne l'a jamais adopté. Il s'est en allé, puis il a décidé de consacrer sa vie à la science et au bien-être de l'humanité. Bon, comment est-ce qu'il a fait plein d'argent? Il a inventé plein de bidules, dont le Zumba. Il a inventé le Zumba, puis donc plein d'autres bidules. Et puis, il est devenu riche avec ça. Et puis, à un moment donné, il a trouvé un enfant qui est Sherman, abandonné. Puis, il l'a pris avec lui. Puis là, il s'est arrangé pour le faire adopter. Puis, il y a une scène où le juge dit, il dit, si un enfant peut adopter un chien, pourquoi qu'un chien ne pourrait pas adopter un enfant? J'ai pas de problème avec ça. L'enfant est à vous, monsieur le chien. Donc, il se ramasse à être le papa de Sherman. Ce qui est bon. Pas nécessairement une bonne chose parce que, bon, tous les enfants à l'école le traitent de chien parce que son papa, c'est un chien. Ben, si ton père, c'est un chien, théoriquement, t'es un chien.
Oui.
Donc, c'est ça. Donc, il se fait traiter de chien, puis ça l'énerve un peu. C'est sa première, c'est ses premières journées d'école. Et puis, à un moment donné, il y a une petite fille, Penny, qui il tape tellement ses nerfs, puis le picosse tellement avec le fait que t'es un chien. Elle prend sa sandwich, elle lance à terre sur le plancher de la cafétéria, puis elle dit « Va chercher ». T'sais, comme si c'était un chien. Fait que là, il va chercher son lunch, puis là, il ramasse sa sandwich, puis là, elle regarde, elle dit « Tu vois que t'es un chien? Je t'ai dit « Va chercher », puis tu vas le chercher. » Et Sherman décide de mordre Penny. Donc, tu mords, ça aide pas ton cas pour te
non,
faire...
c'est clair.
T'as pas fait traiter d'être un chien.
Ouais, mais c'est chien.
C'est oui. Chien.
C'est chien.
Ouais. Donc c'est ça. Donc, l'école revient contre Sherman et amène M. Peabody à l'école pour dire « Gars, votre enfant a mordu une petite fille. » Et puis là, rentre la travailleuse sociale qui veut enlever la garde de Sherman à M. Peabody. Bon, déjà là, on est assis puis on a les yeux qui nous regardent le fond de la tête en disant « Est-ce que je n'avais pas vu ça venir? » C'était comme trop évident qu'à un moment donné, que le fait qu'un chien ait adopté un enfant deviendrait un problème dans le film pour les autres personnes alentour de lui. Bon, on va pas creuser dans le fait de « oui, mais c'est un génie ». Je veux dire, il a inventé le Zumba, il a inventé plein d'affaires, ce chien-là. Peut-être qu'il n'est pas un chien comme les autres, donc peut-être qu'il éduque son enfant comme il faut, comme un humain devrait.
Ben non.
Mais ça, on ne creuse pas nécessairement là-dedans. Vous êtes un chien, vous ne devriez pas avoir le droit d'adopter un enfant. Je veux vous l'enlever. Je vais faire des recherches sur vous. Je vais aller visiter votre maison. Puis si je vois n'importe quel petit indice qui me montrerait que vous n'êtes pas un bon parent, je vous enlève Sherman. Donc, M. Peabody garde ça pour lui. Il ne veut pas nécessairement que Sherman le sache pour ne pas le perturber. Donc, il invite les parents de Penny et Penny à venir souper chez eux un soir pour essayer d'arranger les choses puis que bon Penny et Sherman deviennent des amis et tout ça. Donc ils vont aller souper chez eux. Mais Sherman n'est pas au courant. Bon, là, on apprend que M. Peabody a inventé une machine à voyager dans le temps. Et puis, il amène Sherman un peu partout. Le film commence comme ça. Sherman et M. Peabody voyagent dans le temps. Ils s'en vont visiter, pas nécessairement des endroits, des pays, mais bien des périodes. Donc, la première période qu'ils vont visiter, c'est en France. C'est vraiment la période où c'est la famine, puis tout ça, c'est la Révolution française, puis c'est les mondes dans les rues ont rien à manger, puis les rois dans le château, eux autres, c'est la fête, puis la bouffe à pu finir. Et il y a Marie-Antoinette qui est là, qui est une grosse cochonne qui mange à peu près n'importe quoi, et du gâteau à pu finir, et c'est vraiment... comme incroyable. Donc là, ils rencontrent, ils sont là avec Marie-Antoinette et tout ça. Puis là, les paysans et le monde attaquent le château. Puis là, on rentre vraiment dans les révolutions françaises. Il y a du monde qui veut arrêter M. Peabody puis Sherman parce que sont juste là. Puis s'ils sont là, ça veut dire que c'est des gens riches et de la haute société. Puis là, c'est vraiment la guillotine. Puis tout ça, on voit ça, mais on rentre pas dans le graphique, tu sais, le graphique de voir des gens se faire couper la tête, mais c'est très clair pour les adultes qu'il y a du monde qui se font couper la tête à la guillotine qu'on voit là-bas, mais les enfants s'en apercevront pas trop. Donc, M. Peabody et Sherman doivent se sauver de ça et reviennent dans le présent et tout ça. Donc, on présente le fait qu'il y a une machine à voyager dans le temps qui peut aller bon où il veut, quand il veut. Penny arrive à la maison avec ses parents et tout ça, et bon, Sherman, pour montrer qu'il n'est pas si poche que ça, puis que c'est pas son père n'est pas un chien comme les autres, parle à Penny, lui dit qu'il y a une machine à voyager dans le temps, et amène Penny là, et part avec Penny dans une période quelconque, qui va être la période des pharaons. Et puis, Sherman revient, dit à M. Peabody, mais je pense qu'on a un problème parce que là, elle est partie. Puis M. Peabody dit, ben, t'étais pas supposé dire qu'on avait une machine à voyager dans le temps. Puis il dit, je le sais, mais tu sais, je la vois, elle est cool. Fait que j'en ai parlé. Fait que là, ils partent pour aller sauver Penny. M. Peabody a un super talent pour juste hypnotiser les gens, fait qu'ils hypnotisent les parents à Penny dans une juste une position debout avec quelque chose dans la bouche, sont gelés là, ils partent pour aller sauver Penny, la retrouve étant comme la future reine d'un pharaon, jusqu'à temps que bon le vizir du pharaon lui explique que la femme d'un pharaon est c'est intéressant parce qu'on passe on passe beaucoup de périodes historiques, puis c'est il y a des choses qui sont vraies, on voit de la manière vraiment que les événements se sont passés. C'est sûr qu'on on romance un peu ça pour que ça soit intéressant pour les enfants, mais on va vraiment dans des périodes historiques. Le cheval de Troie, on voit la guerre de Troie où les gens sont cachés dans un cheval pour le faire rentrer. Puis ça, c'est une scène qui est vraiment comique. On passe vraiment dans des périodes qui sont intéressantes de l'histoire. Donc, on est dans le temps des pharaons, puis le vizir explique à Penny, quand une personne prend le roi en mariage, donc quand elle devient reine, c'est pour la vie et pour l'éternité. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire, l'éternité. Puis là, il explique, ben c'est simple, tu vas te marier avec lui, puis la journée qu'il va mourir, même si c'est la semaine prochaine, ben on va te tuer, t'ouvrir, te sortir les entrailles. On est peut-être plus dans le South Park, là. Te sortir les entrailles, les mettre dans un bocal en les faisant sécher, puis on va les offrir pour que toi et le pharaon puissent y monter au ciel. Fait que là, elle est moins intéressée à devenir la femme du pharaon avec ces détails-là. Donc, il se sauve. La machine à voyager dans le temps manque d'énergie. Il se ramasse dans le temps. On rencontre Leonardo da Vinci. Comme je dis, on va rencontrer, on va passer dans le temps de la guerre de Troie, on va rencontrer Abraham Lincoln, George Washington. On est vraiment dans le temps. Puis c'est là que ça devient intéressant. Rendu à ce point-là, le film, je l'ai presque pris comme une série de petits sketchs plutôt qu'une histoire vraiment bien ficelée. Parce qu'à un moment donné, on se fout de l'histoire, on veut juste voir où ils vont aller après. Puis qu'est-ce qu'on va voir? Puis je veux dire, on est rendu à un point aujourd'hui où l'animation 3D, l'animation qu'on utilise pour faire les dessins animés est tellement proche du réalisme que ça en est presque déconcertant. Par bout, si les personnages sont pas à l'écran, parce qu'on s'entend que les personnages sont c'est très caricatural, on a presque l'impression que par bout, on voit des vrais paysages tellement c'est super bien fait, là. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. On rencontre Leonardo da Vinci quand il est en train d'essayer de peindre la Mona Lisa, puis il n'est pas capable de la faire sourire. Puis il dit, il connaît déjà M. Peabody parce qu'il est déjà allé le rencontrer. Il dit là, il dit Peabody, il dit, je suis pas capable de la faire sourire. Plante en faisant quelque chose, puis la se met à rire, puis c'est là qui capture le sourire qu'on voit sur la peinture de Mona Lisa. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça qui rendent le film intéressant. Fait que je suis parti du point à me faire dire, ça va être à me dire, ça va être un ramassis de réchauffés et de choses moins intéressantes à un film qui vraiment te montre des petites parties de l'histoire qui viennent rendre ça intéressant. Il y a une scène du cheval de Troie qui est vraiment intéressante parce que, Sherman, étant maudit, il sauve, il s'en va là, puis il est dans le cheval de Troie à vouloir attaquer Troie avec les gens qui sont là, puis M. Peabody veut aller le sauver. Fait que pour aller sauver Sherman, il cogne dans les fesses du cheval de Troie. Il rouvre la porte. Il rouvre la porte du cheval de Troie, puis c'est un petit cheval qui est en bas. Puis il ramasse le petit cheval. Il dit hey, j'ai trouvé ça en bas. Il dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il dit ben, on peut pas refuser un cadeau. Rentre-le en dedans. Puis il ferme la porte. Fait que tu te dis. Ils se sont fait faire le coup qu'ils sont en train d'essayer de faire aux autres. Ouais, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est de l'humour comme ça. C'est vraiment, c'est léger, mais c'est le fun, c'est drôle. Puis je me suis laissé embarquer dans l'histoire. Puis finalement, c'est un film qui est super bien fait, qui est super le fun. Si on enlève le fait que le personnage principal, c'est un chien qui parle, tu sais. Je me suis dit, tu sais, chien qui parle. Il y avait le film là-haut avec Disney dedans qui avait un chien qui parle. Puis c'était un peu la joke du film. Fait que je me disais, bon, on a-tu utilisé un peu ça? Mais tu sais, Sherman puis M. Peabody, c'est plus vieux que ça. Ça date depuis plus longtemps que ça. Je pense que c'est quelque chose... Ils ont fait un film intéressant pour les enfants. C'est drôle. C'est t'sais, un tant que soit peu instructif pour les périodes qu'on voit, la manière que ça a été fait, la manière que les animations sont faites, les décors sont faits, c'est vraiment super beau. Fait que je vous dirais, si vous avez un film à aller voir avec des enfants, c'est un bon choix. J'aurais pas peur de vous dire, ben, dépensez l'argent que ça coûte pour aller le voir au cinéma. Si vous pouvez pas, attendez pour le regarder à la maison, là, vous allez avoir autant de plaisir. Mm-hmm. Le 3D apporte plus ou moins au film, là, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire. On n'est pas en train de nous lancer des affaires au visage à tout bout de champ. On n'a pas utilisé ça comme trop, mais c'est bien parce que ça donne une espèce de sensation de grandeur quand on est dans les décors. Puis il y a une scène là, vraiment où Sherman puis Penny volent avec l'espèce d'engin volant que Da Vinci avait dessiné puis créé. Pour s'apercevoir que ça marche, puis ça vole. C'est eux autres qui volent. Fait que la vision 3D là-dedans est quand même intéressante. Fait que c'est un bon film, finalement. Puis je vais y donner un généreux 8 sur 10.
Donc, c'est une belle surprise.
Oui, c'est une très belle surprise. Moi, qui allais totalement de reculons, finalement, je suis allé pour faire plaisir à mon garçon. Ben, je suis sorti de là, puis ah, c'était bon. On a passé du bon temps. Puis c'est très bien, mais je pense qu'il y a eu bien du monde qui ont eu à peu près la même réaction de moi, parce que c'est un film qui a coûté 145 millions, puis ils ont fait 107 à date, fait qu'ils sont en dessous okay. de leur budget. Mais c'est des films qui vendent souvent beaucoup quand ça tombe en Blu-ray ou en DVD. C'est là que des fois ça reprend un peu. J'ai pas peur qu'ils vont refaire leur argent. Là.
Ben, c'est là que tu te rends compte qu'au cinéma, souvent, le nom a quand même une importance. Ouais. Dans le sens que, tu sais, une franchise, le deuxième, ça se peut qu'il fasse de l'argent, même s'il est vraiment moins bon que... tu sais, il va refaire des résultats meilleurs que ce qu'il devrait en termes de qualité de film versus le nombre de monde qui vont aller le voir. Tandis que, des fois, ben, tu as des petites perles cachées comme ça qui sont super bonnes, mais qui, sont pas en mesure de sortir la tête de l'eau côté finance.
C'est ça, avec, tu sais, quand t'as des gros noms comme les dragons ou quand t'as des Shrek ou des choses comme ça, tu tombes avec quelque chose comme ça que la plupart des gens connaissent pas. C'est plus dur de les traîner au cinéma. Mais c'est un bon résultat. Puis, je veux dire, on joue encore la carte du voyage dans le temps. Ça ouvre des possibilités infinies. Là. On n'a pas été dans tant de périodes que ça, fait qu'il pourrait facilement faire un deuxième film puis aller ailleurs dans le temps puis tu sais voir différentes choses. Puis dans le film, on ne touche pas du tout au futur, on touche juste au passé. Donc on va pas dans le futur, on voit pas le futur, fait qu'il pourrait faire un film complet sur le voyage dans le futur plutôt que dans le passé, tu sais. Mais donc, ça rouvre un univers. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième film? Ça va dépendre des sbires en haut chez...
Souvent, la rentabilité fait foi de tout, hein?
C'est ça, fait que ça va dépendre, tu sais, c'est DreamWorks qui est en arrière de ça. Est-ce que DreamWorks va dire, bon, on va y aller avec un autre film? C'est 20th Century Fox aussi en arrière de ça. Est-ce qu'ils vont dire, bon, on a mis la table pour un film... Puis, on va essayer avec un deuxième pour voir si le deuxième va être meilleur, va pogner plus. Parce que là, bon, on a mis la table, les personnages et tout ça. Puis les gens savent qu'est-ce que c'est maintenant. Je serais pas surpris qu'on voit un deuxième film de Monsieur Peabody avec Sherman d'ici peut-être 2-3 ans. Parce que c'est quand même long à faire. Là. La production d'un film comme ça, c'est quand même long. Ça me surprendrait pas d'en voir un deuxième parce que... Il y a de l'espace pour aller jouer dans le terrain de jeu qui se sont créés.
Ouais.
Fait que allez voir ça si vous cherchez de quoi faire en fin de semaine avec vos enfants. Allez voir ça, vous allez faire du bon temps. Puis c'est pas y a pas de scène vraiment épeurante, des choses comme ça. Oui, il y a de l'histoire. Puis c'est sûr, ils se font courir après par des méchants puis tout ça. Fait que c'est si vos enfants sont un peu nerveux puis aiment les films avec juste les ballons puis les licornes, des choses comme ça, ça va peut-être bien être un peu moins, là. Mais tu sais, s'ils aiment les films avec un petit peu d'aventure, un petit peu d'action, puis sont capables de faire la différence entre ce qui est faux puis ce qui est vrai, là, à un certain âge, c'est ça qui est difficile de faire que l'enfant réalise que ce qu'il voit, c'est pas vrai, c'est juste un film. Là. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de plaisir parce que c'est intéressant, c'est bien. Puis ça met. C'est un enfant de 5-6 ans qui est dans une des vedettes du film. Fait que c'est bon pour les enfants parce qu'ils peuvent comme un peu s'identifier au personnage. Fait que c'est le fun. Moi, je me suis identifié au chien, t'sais, un génie.
Oui, et beaucoup de poils.
Et beaucoup de poils, surtout le bout de poils. On va laisser faire le génie, on va y aller avec beaucoup de poils.
Ben moi, c'est la caractéristique qui m'a comme allumé vers toi. Là.
Moi, je me demande juste comment ça se fait que tu
J'en ai aucune idée, okay, c'est une blague.
Bon, tu as pris un bon guess, oui. Puis ça a tombé. Ça, okay.
Exact. Ben écoute, c'était ça. Hein, ben j'aurais pu dire ton caractère, mais ça aurait été
caractère
chien.
De chien, ouais, soit ça ou le poil.
Ouais, c'était ça.
C'est plus, comme moins, plus que le génie.
C'était moins dommageable, le poil, pour notre relation d'amitié.
C'est ça.
Hey, moi, je vais aller avec des zombies. Eux autres, ils n'ont pas mauvais caractère, ils sont juste morts. Et je les ai affrontés dans le tout nouveau Dead Rising 3, titre de lancement et exclusivité pour la Xbox One. C'est produit par Capcom. C'est un jeu d'aventure et c'est le troisième volet quand même de la série. Moi, je vais vous le dire en partant, j'ai adoré ce jeu-là, mais je n'avais pas joué au jeu précédent. J'y avais touché un petit peu, là, mais j'avais pas passé au travers. Et l'une des choses que beaucoup de gens reprochaient à cette série-là, c'est le fait qu'il y avait toujours des limitations de temps. On avait dans le deuxième volet la petite fille qui avait besoin de Zombrex. Ça, c'est le genre de vaccin anti-zombification. Et là, ben, fallait que tu reviennes genre à tous les 30 minutes pour aller la soigner. Donc, on t'offrait une map super grande avec plein de trucs à découvrir, mais tu ne pouvais jamais te rendre parce que tu affrontes les zombies, tu te rends, puis là, ben, écoute, tu étais tout le temps à course pour sauver ta petite fille, t'étais un peu coincé de cette façon-là, artificielle. Il y a bien du monde qui reprochait ça. Dans celui-là, on a réglé le problème au jour le jour. Dans le sens que, dans le cadre de l'histoire, on nous parle de la municipalité de Los Perdidos. On se retrouve là, on campe le rôle de Nick, un genre de garagiste qui est avec sa gang de chums. La ville est... on se retrouve là dans le même univers là, que les autres Dead Rising précédents. La ville est sous l'emprise des zombies alors que le gouvernement américain a lancé une vague de vaccination. On insère une puce aux gens, la puce Zombrex, qui est censée empêcher les gens de se transformer en zombie, mais à Los Perdidos, ça ne semble pas fonctionner. Donc, il y a invasion. On a fermé la ville, on a fermé la municipalité, il n'y a personne qui peut sortir. Et le gouvernement finit par décider que, écoute, on peut rien faire. À toutes les fois qu'on envoie des gens là-bas, ils finissent par se transformer en zombie. On n'est pas capable de prendre le dessus. On a barricadé la ville. Puis on va la faire exploser avec une grosse bombe qui va rayer la ville de la carte, puis on va régler le problème de même. Et le compte à rebours qu'on avait normalement à la hauteur de 30 minutes, là, comme je vous parlais avec la petite fille qui a besoin de son vaccin, ben là, il est plus long. On parle de 7 jours de jeu. Mais c'est pas 7 jours, genre 1 minute égale 1 minute. Là. C'est vraiment comme 1 minute de la vraie vie égale plusieurs minutes dans l'univers du jeu. Donc, t'es capable de jouer là, facilement... facilement plusieurs heures. Moi, j'ai fait ça à peu près en une vingtaine d'heures. J'arrivais, là, il me restait comme 2-3 jours là, de jeu pour pouvoir continuer à explorer avant que l'explosion soit enclenchée par le gouvernement.
Fait
que,
t'sais, on a... c'est pas un peu anti-climatique?
Ben... oui et non, dans le sens que au début, t'as du temps en masse. Puis là, à la fin, tu te dis... ah, merde, t'sais, faut que j'aille faire ça, il me reste telle personne à sauver. Est-ce que je vais avoir le temps de rentrer dans l'histoire? Tu veux explorer, tu finis par perdre ton temps un peu là, dans le sens que tu vas mettre les quêtes de côté pour aller ramasser les différents objets. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que cette pression de temps-là ne permet pas de tout ramasser dans le jeu. Ce qu'on va te dire, c'est que, ben, écoute, ce que t'as ramassé dans ta partie, dans le New Game Plus, parce qu'il y en a un après l'avoir passé, ben, c'est encore ramassé, fait que t'as le restant à aller chercher, puis tu recommences l'histoire. Je trouvais ça un peu dommage. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, qu'on ait pas de pression, mais on a quand même simili-réglé les problématiques du 1 et du 2 qu'on avait beaucoup reproché à Capcom avec les Dead Rising. Fait que, tu sais, c'est comme un entre-deux. Mais, tu sais, on aurait pu laisser tomber ce bout-là, malgré que scénaristiquement, ça met quand même une pression qui est intéressante, parce que les personnages que l'on côtoie, ils ont tous un petit quelque chose à faire avant qu'arrive cet événement-là tragique, puis il faut que tu te dépêches à pouvoir les aider, puis à un moment donné, tu finis par faire des choix. tu sais, il y a un bon côté, mais il y a aussi un mauvais côté à ça. Puis des fois, faut prendre ce genre de décision-là quand t'es un créateur de jeux vidéo puis t'as une histoire en tête. Ça fait partie de la game.
OK.
Truc intéressant dans celui-là, le monde est plus vaste que jamais. C'est la plus grande map qu'on aura eue dans un Dead Rising. Le premier était dans le deuxième était... En fait, non, les deux premiers ou le deuxième, en tout cas. Il était dans des centres d'achat. Alors, c'était grand, mais c'était quand même limité. Là, on est littéralement dans une ville. Ville qui est séparée en quatre quartiers qui sont interreliés par des autoroutes. La map est vaste, il y a beaucoup de choses à trouver, beaucoup, là, les costumes, les armements, des recettes, si on peut dire ça comme ça, des plans pour construire des armes ou encore des véhicules modifiés. Il y a énormément de matériel, il y a même des décès particuliers qu'on retrouve, des scènes où est-ce qu'on va voir des gens qui sont morts dans des situations particulières, puis là, oh, ces petits moments tristes qu'on vit en examinant la scène. Alors, il y a énormément de matériel à trouver, ce que vous allez probablement pas, à moins là, d'être vraiment, vraiment bon, là, puis de faire ça vite, là, vous n'allez pas être en mesure de ramasser dans le cadre d'une partie normale. Et ce que je reproche, ben c'est un peu ça. T'sais, le manque de temps fait que tu peux pas trouver tous les objets. C'est un peu dommage, mais avec le New Game Plus, en refaisant des parties, tu peux peut-être être en mesure d'y arriver, mais ça va demander de refaire des scènes de l'histoire principale. Ça, c'est un peu dommage de retaper certaines missions annexes. Donc, tu sais, il y a un petit côté redondance dans l'expérience pour l'amener là, jusqu'à 100%. Une map qui est vaste, c'est intéressant, c'est le fun ça, sauf que il y a un gros défaut là-dedans, c'est que la carte elle est séparée en quatre quartiers avec les fameuses autoroutes. Alors souvent on va te dire, t'es dans le coin en bas à gauche de la carte, on va te dire, hey, j'ai un ami qui est à telle place, va le chercher, ramène-le. Puis l'ami, ben il est dans l'autre coin en haut à droite, puis t'as pas le choix de passer par l'autoroute pour te rendre. Mais tu vas le faire dans un sens, tu vas le faire dans l'autre sens. D'une mission à l'autre, tu vas refaire ce genre d'affaires-là. Donc, tu vas finir par passer toujours aux mêmes endroits. Puis ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que ce soit une ville plus homogène, que ce soit plus tout ensemble, au lieu d'être vraiment séparé par quartier comme ça. Je trouve ça un peu dommage parce que, finalement, ces environnements-là de type autoroute, ben c'est ceux que tu visites le plus. Puis c'est les premiers que tu vas vider de leurs objets, de leurs trucs à trouver. Puis après ça, ben, tu vas devoir fouiller ailleurs, mais jamais dans des zones que tu vas fréquenter aussi souvent. Alors, côté design de la carte, je suis un peu déçu de ce côté-là.
OK.
C'est un peu problématique. Ça aurait été plus simple de faire un simple bloc tout ensemble. Ça aurait été plus simple pour le joueur. Peut-être pour les développeurs, ça aurait été plus compliqué parce que là, ça permet de ne pas charger toute la carte d'un seul coup. Puis quand tu es dans l'autoroute, peut-être qu'il y a des parties de carte qui se chargent pendant ce temps-là. Puis que le coin que tu viens de quitter, ben, se décharge. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Je suis pas développeur. Je suppose que c'est pour ce genre de choses-là qu'on a décidé d'y aller comme ça, comme design. Mais c'est un peu dommage en termes de mise en place là, dans le cadre du jeu. Le jeu est extrêmement drôle, on vise beaucoup sur l'humour, autant les armes, les combos, on va avoir des centaines d'objets différents qu'on va pouvoir combiner selon les plans qu'on retrouve dans le jeu. Des armes aussi inutiles que drôles, aussi inutiles que très efficaces, voire inefficaces. Tu peux, exemple, trouver un ourson en peluche, quand même assez gros, là, tu sais, à la hauteur de la taille, tu l'associes avec des mitraillettes, puis tu le places à terre, puis dès qu'il y a des zombies, lui, il scanne un peu, puis il devient une tourelle, tu sais, une tourette. Tu vas avoir, exemple, une lampe de poche, plus un genre de type de batterie particulière avec un autre objet, ça va te faire un genre de sabre laser. Tu vas pouvoir te faire des faucheurs, tu vas pouvoir te faire différents objets. Des véhicules aussi, tu vas pouvoir combiner, mettons, un rouleau compresseur avec une moto pour faire un genre de moto-compresseur qui est vraiment débile. Ça, c'est le véhicule que je prenais tout le temps. Très rapide, très mortel envers les zombies. C'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup de variété dans les objets qu'on peut utiliser. Ça va du très létal au peu létal. Ça va du corps à corps à distance. Il y a différentes façons. C'est très agréable. C'est très plaisant de ce côté-là d'explorer là, les différentes possibilités que le jeu nous offre.
Ah, c'est bizarre que tu dises ça parce que me semble que quand on avait vu le, en tout cas, les premières images, le trailer, puis même les vidéos, en tout cas, ça donnait l'impression de que le jeu était beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste entre guillemets que les autres Dead Rising.
C'est vrai que la vidéo dans le E3, on voyait genre le personnage de Nick sur un véhicule, puis là il y avait plein de zombies alentour de lui, puis on présentait une atmosphère plutôt sombre dans cette vidéo de présentation là. Mais en réalité là, notre personnage, j'expliquerai pas le pourquoi du comment dans l'histoire, mais il est immunisé à la zombification. Donc, tu peux te promener à travers les zombies, tu te fais accrocher, il essaie de te mordre, mais ça fonctionne pas, puis tu es capable de combattre quand même assez aisément. Alors, tu te promènes dans cette mer de zombies-là, et il n'y a pas de problème. Tu cours, puis tu es à l'entour des zombies, puis ils se déplacent vraiment tranquillement. Alors, c'est pas une problématique. Oui, on a voulu présenter un visage quand même sombre, mais c'est un scénario, c'est une histoire, les missions annexes, là, c'est vraiment très, très drôle. On a vraiment mis l'accent sur l'humour. Je parlais des zombies, là, vraiment, là, des milliers, on en voit ça, là, des milliers à l'écran et en même temps. Le jeu Dead Rising 3 est une prouesse technique. Je pense que c'est l'avenir de cette nouvelle génération-là, de pouvoir présenter autant d'éléments visibles et actifs à la fois. C'est l'enfer. T'as des endroits là, tu vas avoir des centaines et des centaines de zombies et tu vas faire, entre autres, une arme que j'aimais beaucoup. C'est un méga combo. Et c'est comme trois cônes mis ensemble avec... ça va faire un genre de speaker, puis tu vas pouvoir faire des pushes de son, tu sais. On s'entend que c'est pas réaliste, là, mais dans le cadre du jeu, ça fonctionne, bon. Et ça, c'est extrêmement létal, puis tout ce que ça touche, ça le tue, tu sais. Et tu te ramasses en avant d'une grosse foule de zombies, un push va faire genre 40 morts, là. Puis il en reste encore des centaines et des centaines alentour de toi. Alors, cette prouesse technique-là est très intéressante. Ça permet d'avoir du fun, là. Dégommer du zombie, tu peux le faire, puis pas à peu près. Moi, j'ai fini ma partie, là, j'avais genre 10 000 zombies tués, là. À coup de bâton, à coup de masse, à coup d'épée, à coup de gun. Très, très, très plaisant, là.
C'est ça. On dit beaucoup de Dead Rising 3 que c'est un bon défouloir.
Oui, vraiment. Sauf que en même temps, comme tu as des centaines et des centaines de zombies que tu vois, ça devient en même temps. C'est comme si tu. Je vais prendre une image, OK? C'est comme si tu te promènes en forêt, puis tu te dis, ben écoute, je vais me faire une route au lieu de courir entre les arbres. Tu sais, tu peux bûcher. Tu vas te rendre, tu sais. Mais ça va être bien plus long. Ah oui, à la fin, tu vas peut-être avoir un chemin, là. Mais dans ce jeu-là, comme les zombies se régénèrent, ben le chemin, il se remplit tout le temps. Donc, tu finis par, quand le temps avance, tu finis par laisser tomber le tuage de zombies, puis juste courir entre les zombies ou prendre des véhicules pour t'en sauver, puis garder tes armes pour les moments où est-ce que t'as pas le choix de te défendre dans le cadre des missions, dans des zones fermées, dans des zones particulières. C'est un jeu qui... C'est pas nécessairement un gros défi. Il y a des armes qui sont vraiment cheatées, là. Cette arme-là que je vous parlais, le méga combo avec les cônes, là, c'est... Ça n'a pas de bon sens, là. C'est vraiment plus fort que tout, là. Alors, tu sais, t'es jamais coincé, t'es jamais en grosse problématique. Plus tu tues des zombies, t'as un petit côté genre RPG que tu peux augmenter les capacités de ton personnage, tu gagnes de la vie, tu peux transporter à la fin plusieurs objets, alors qu'au début t'en avais genre 4. Tu vas améliorer ton personnage et jamais t'es inquiet. C'est juste le fun. On te présente un jeu qui est le fun, un divertissement, puis c'est pas une question de challenge. Puis tu sais, t'as pas vraiment de niveau de difficulté. Moi, j'ai été... oui, t'en as, là, des niveaux de difficulté. Moi, j'ai pris normal, puis j'ai jamais été inquiété là, dans la partie, sauf dans une section où est-ce que je me suis retrouvé pas d'équipement à la sortie d'une mission, puis il y avait plein de zombies, puis là, essaye de te rendre, puis à toutes les fois que t'accroches, ben, tu perds un petit peu de vie, puis écoute, faut que tu trouves de la bouffe pour pouvoir te régénérer. Mais à part ça, là, j'ai jamais vraiment été inquiet, parce que il y a certaines armes qui sont vraiment puissantes, puis quand tu t'équipes comme du monde, ben, t'es vraiment létal, là. T'es vraiment meurtrier. Alors, tu sais, la quantité de zombies, c'est le fun, c'est cool. Au début, tu fais, je vais bûcher dans le tas, yeah! Tu sais, t'essaies tes armes, c'est le fun. Mais à la fin, tu laisses un peu ça tomber parce que, au final, ça sert pas à grand chose, si ce n'est qu'accumuler de l'XP, tu sais. Puis, en même temps, ça t'en prend, là, genre, des centaines de milliers là, de points d'expérience pour monter de niveau à la fin. Puis, mettons que tu prends un char, tu fais 2 d'XP par mort de zombie, là. Fait que c'est dire comment est-ce que c'est pas nécessairement payant, tu sais. Puis en même temps, si c'était plus payant que ça en expérience, il y en a tellement que tu viderais une zone, puis là, ben, tu serais rendu déjà top level, puis tu sais, ils ont essayé de balancer ça, puis ça perd un peu de son intérêt à la fin, là.
Mm. Bon, ben, coudonc.
T'as-tu
entendu mon chat en même temps?
Oui, un petit peu. Ouais, lui aussi, il a peur des zombies. Hein. Donc.
Des zombies.
Hein?
Ou il a peut-être juste dit amenez-en des zombies.
Ouais, amenez-en, ouais. Non, c'est assez le fun, c'est plaisant. Là. C'est vraiment pas un mauvais jeu. C'est un jeu, en fait, qui est très divertissant. Moi, j'ai joué beaucoup en coop parce que tu peux jouer en coop à deux avec un ami ou encore une personne qui se connecte dans ta game sans que tu lui demandes. Puis ça, c'est un peu tannant. Genre avec ma blonde, je suis au téléphone, je suis en train de jouer à Dead Rising, fait que je me dis, je vais mettre la session sur pause. Puis je me grimpe sur un char, je me dis, bon, je me ferai pas toucher, je mets sur pause. Puis je me rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui est dans ma game, parce qu'il est tellement pas dans le même bout que moi. Quand t'es en multi, quand t'es en coop, tu peux mettre sur pause, mais le jeu n'arrête pas, donc tu peux naviguer dans les menus, mais le jeu continue. Finit par tomber, les zombies dérangent mon char, finissent par le faire exploser. Je me suis fait tuer de cette façon-là parce que j'étais pas en avant de la console. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'on m'avertisse pas ou qu'on me demande pas est-ce que tu acceptes qu'une personne se joigne à ta game? Tu peux le mettre dans les settings éventuellement de fermer ta session par rapport aux autres. Tu peux le faire, mais quand quelqu'un se joint à toi sur un téléphone qui te demande hey, t'en veux-tu ou t'en veux pas de cette personne-là? Tu sais. Donc ça, ouais. C'est... Hey, le chat!
Le chat qui ronronne dans le micro. C'était le problème aussi avec un autre jeu. À un moment donné, mon fils jouait à Lego Indiana Jones, puis il voyait que le bonhomme était le bonhomme qui était supposé le suivre était pas mal trop actif dans le pétage de blocs. On s'était aperçu que quelqu'un s'était logué dans sa game à travers Xbox Live.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Oui, tu peux le fermer à toute intrusion, mais ça aurait été fun que... À la pièce, quand quelqu'un se branche, bon, on te le demande. T'sais, veux-tu ou tu veux pas? Ça aurait pu être une bonne chose. Dans les points positifs encore, le jeu, tu parlais de sombre, Daniel, de plus dangereux, de plus mystérieux, de plus, plus gore. Ben, c'est le cas. On tranche du zombie, il y a des pièces partout, ça revole. C'est vraiment de la viande, c'est de la chair à canon, puis on explose ça. C'est gore, c'est sanglant, mais c'est toujours fait avec humour. Ton personnage fait des jokes, on affronte des adversaires. Parfois, ils sont des humains qui vont paniquer ou qui vont virer leur cap de bord puis t'affronter. Et entre autres, les boss de missions secondaires sont vraiment très, très drôles. Il y a une madame, entre autres, c'est une vraiment énorme dame. Elle est dans une chaise roulante et elle est embarrée toute seule dans un buffet genre chinois. Puis il y a plein de bouffe. Mais c'est parce que la population qui est encore vivante, elle manque de nourriture. Fait que ton personnage s'en va là-bas. Puis là, elle dit, ben écoute, on pourrait partager. Puis là, la madame, non, tu prendras pas ma bouffe. Puis tu m'insultes, c'est à moi. Blablabla. Puis là, gros combat. La madame, une des attaques spéciales, c'est qu'elle te vomit dessus parce qu'elle fait de l'indigestion. C'est vraiment très, très drôle. Tu te fais courir après par la madame en chaise roulante qui fait des burns dans la cafétéria. Il y a toujours cette touche d'humour-là. C'est toujours over the top, mais ça cadre parfaitement bien avec ce jeu-là.
Ça me rappelle South Park.
Oui, un peu. Ouais. Je me suis senti interpellé tantôt quand.
Ça me rappelle les vagues de diarrhée que j'ai vues dans le jeu.
Dans les autres trucs positifs, il y a un système de maisons safe. Les safe house, donc des genres de quartiers généraux où est-ce que tu peux te rééquiper, acheter des bagnoles, tu peux faire le plein. Ça, c'est très très cool parce qu'une fois que tu as saisi un objet dans le jeu, ben, il se retrouve dans ta banque, dans ton quartier général. T'as un genre de locker, là, de garde-robe où est-ce que tu peux prendre des objets, créer des combos. Puis une fois qu'ils sont créés, les combos sont là, les objets, tu les as tous. Fait que si t'as une recette, si t'as un plan, puis il te manque, t'as besoin de tel objet, puis tu as déjà touché dans ta game, ben il se retrouve dans ton locker. Fait que t'as pas besoin de chercher genre pendant des heures et des heures pour trouver ce que t'as de besoin. Ça accélère énormément le processus. C'est très efficace. J'ai bien aimé cette portion-là. Tu peux sauvegarder n'importe quand dans le jeu. Tu vas réapparaître dans une safe house qui n'est pas trop loin. Puis tu reprends là où est-ce que tu étais rendu dans tes missions. Tu te rends. Puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans les trucs très, très drôles du jeu, dernier point vachement positif, c'est les costumes. Tu peux te promener dans bien des sortes de magasins, bien des établissements avec bien des sortes de vêtements que tu peux te mettre sur le dos. Des barres de stripteaseuses, tu peux goffer, là, tu t'habilles n'importe comment, des trucs sadomasochistes. Exemple, le costume que j'ai utilisé le plus souvent, c'est le costume de pompier. Et tu dois assembler les costumes. Tu dois trouver, mettons, les bottes, les culottes, la chemise, puis tu sais, les différents objets de ton kit. Puis une fois que le kit est complet, tu vas avoir certains bonus. Et le kit de pompier, il comprend la moustache. Fait qu'il faut que tu trouves une moustache de pompier. Et le kit fait que t'es comme plus résistant au feu, puis les zombies s'accrochent moins à toi, là. Fait que tu sais, il y a une recherche aussi, là. Ça va être bien niaiseux, certains costumes que tu vas trouver. Mais en même temps, ils ont certains avantages. Fait que ça peut être intéressant de courir après ça. Puis ça amène une autre profondeur d'objets à chercher, là. Déjà qu'il y en a plein, là, ça aussi, ça peut être très, très intéressant. T'as genre une quinzaine de costumes différents, là, que tu peux aller chercher. Tous ceux plus drôles, les que les autres.
Cool.
Dans les trucs négatifs, je vous ai parlé des missions secondaires. C'était le fun, c'est drôle, beaucoup d'humour. L'histoire principale est un peu plate. On mise beaucoup sur l'humour, mais on s'attache très très peu aux personnages. Moi, j'ai fini par dire « Ah, t'es encore dans mes pattes, là, je peux-tu avancer? » Tu sais, quand t'es rendu à ce point-là, à dire « Bon, je vais pas faire l'émission tout de suite, ça me tente pas, je vais continuer à me promener juste pour le fun. » C'est qu'il y a un problème quelque part. T'sais, on n'a pas été... Je sais pas, l'histoire, ça m'a pas accroché. Ça a pas très, très bien fonctionné pour moi. Il se ramasse avec une histoire de complot. Le gouvernement est impliqué. C'est compliqué. Il y a plein de monde qui sont dans tes pattes, qui revirent leur chemise de bord pour être avec toi, qui finalement... ça finit plus. Donc, vraiment, ce jeu-là, on le prend pour dégommer du zombie et pour avoir du plaisir brut. Pas pour l'histoire. Soyez avertis. Map mal découpée, je vous en ai glissé mot tantôt, hein, le fait de toujours devoir repasser sur les mêmes chemins, c'est un peu plate, ça coupe le rythme du jeu aussi, puis ça fait qu'il y a certaines zones où t'es exploré vraiment à fond, puis d'autres t'es à peine vu parce qu'ils sont dans des extrémités, sont plus difficiles d'accès. J'ai vécu certains bugs dans les missions secondaires, et c'était toujours relié avec des personnages qui se joignaient à toi. Tu vas voir certains personnages non-joueurs qui, dans le cadre des missions secondaires, vont dire « Ah, j'ai besoin d'aller dans telle place. » Entre autres, il y a une vieille madame. Elle est sur le bord de mourir. Il y a plein de zombies. T'as sauvé. Puis là, elle dit « Merci, merci, merci. Mais j'étais prête à mourir. » Mais avant de mourir, j'aimerais ça pouvoir revivre certains, tu sais, revoir certains lieux marquants de mon mariage avec mon mari. Fait que là, faut que tu l'amènes à telle place, dans une bijouterie, à tel endroit, blablabla. Bon, tu sais, c'est le genre de mission de même que tu dois promener le personnage. Et à un moment donné, dans la fameuse bijouterie, le trigger s'est jamais déclenché. Elle a jamais constaté qu'elle était en place, puis elle devait me dire telle affaire pour pouvoir passer au prochain endroit. Je l'ai eu à deux occasions, dans deux missions différentes, et cette mission-là, entre autres, avec la vieille madame, j'ai recommencé genre quatre fois, pis à toutes les fois, ça plantait au même endroit. J'étais là, j'étais avec la vieille madame, elle dégommait du zombie avec moi, mais elle déclenchait jamais ce qu'elle devait me dire dans la fameuse bijouterie, puis pourtant, j'étais à la bonne place, j'ai surveillé, c'était indiqué sur la carte que c'était là qu'il fallait aller, tu sais, et ça a jamais déclenché, donc, tu sais, il y a un peu ça. Finalement, j'ai été obligé de laisser tomber cette mission secondaire-là. Une chance que c'était pas dans l'émission principale. Et j'ai pas vu de patte, j'ai pas vu de roustine pour régler le problème passé. Peut-être que c'était fait, là. Ça fait quand même une semaine que j'ai pas joué. Mais ce genre de bug-là, je trouve ça un peu dommage.
Fait que tu peux juste recommencer la mission et laisser se faire bouffer par les zombies en partant.
Ouais, c'est ça. Puis tu vas juste pas avoir le gain.
Juste sauver du temps.
Ouais, c'est ça. Tu vas juste pas avoir le gain à la fin de la mission. Tu sais, c'est pas, okay. C'est une mission secondaire. Fait que c'est pas... quand tu fais ce genre de mission-là, puis tu finis avec le personnage, tu finis ses affaires, il devient tes survivants. Puis ça, ben, ça améliore ton score à la fin de la game. Tu sais, c'est pas nécessairement flagrant comme impact.
OK.
Et en dernier lieu, petit problème relié à la console, mais surtout avec le Kinect en particulier. Dans le jeu, on te permet de faire certains contrôles dans les menus avec le Kinect. Tu dis les choses du menu, puis ça va les activer. Sauf que le Kinect est toujours actif. Quand tu es en multi, en coop avec un de tes chums, tu es en train de jaser, ben tu parles. Et des fois, le Kinect se dit « Ben oui, mais il est en train de parler, je mets sur pause. » Fait que là, tu te ramasses des menus pendant que le jeu n'est pas en pause, parce que tu es en coop, comme je disais tantôt, il s'arrête pas le jeu. Toi, tu es dans les menus, tu es en train de te faire tuer, puis tu es obligé de débarquer du menu, tu sais. Puis ça arrive quand même assez fréquemment, puis c'est directement relié à la Kinect. Mais j'en parle particulièrement dans ce jeu-là parce que le jeu ne se met pas en pause quand tu es dans les menus, quand tu es en multijoueur. Tandis que dans d'autres jeux, je n'ai pas joué à tous les jeux de la Xbox One, je sais que ce problème-là est récurrent aussi. Il y a beaucoup de mise en pause des jeux quand on est dans des conversations avec des amis en raison de la Kinect. Mais je ne sais pas si ça l'affecte la jouabilité. Tandis que dans Dead Rising, ben, quand tu es sur pause en plein milieu du zombie, puis que le jeu continue à rouler, puis tu te fais bouffer, c'est pas tellement le fun, puis ça a un impact sur ta game.
Ouais, léger. Être mort, ça a un léger impact sur ta game.
Un peu, oui. Donc voilà, c'est pour Dead Rising. Somme toute, j'ai eu beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Je vais être franc, là. Côté graphisme, on est sur de la 360. Côté qualité de jeu, on est sur de la 360. Oui, je le sais, c'est un jeu de Xbox One, mais en réalité, c'est un jeu qui, tant qu'à moi, a été pris de la Xbox 360 et amené sur la Xbox One pour être une exclusivité, pour être un titre de lancement. Il en manquait. Et tout ce qu'on a ajouté là-dedans, c'est le nombre d'ennemis apparents. C'est le fun, c'est un excellent jeu, mais ce n'est pas un jeu de nouvelle génération. On va être franc, c'est un jeu de Xbox 360 exclusif sur Xbox One. C'est plate. C'est dommage. Pour un titre de lancement, c'est un excellent jeu, mais ce n'est pas un jeu qui démontre le potentiel de la console comme on aurait pu s'attendre de certains titres. Je vous ferai prochainement la critique de Forza 5. Côté graphisme, côté contrôle, gestion de tout ce qu'on, t'sais, tous les paramètres des voitures, on est bel et bien dans un jeu de nouvelle génération, mais Dead Rising 3, ce n'est pas le cas. On aurait pu, tant qu'à ça, offrir une version 360, mais je pense que Microsoft a calculé ses pions en disant « Ben écoute, ça serait une raison pour les gens de transférer vers la One, ça serait un argument de vente. » Mais j'aurais aimé que ce soit encore un meilleur jeu pour que ce soit, tant que ça, un argument de vente positif, parce que pour moi, c'est un peu mitigé de ce côté-là. Je vais y aller avec un 7.5 pour la note, parce que c'est ça, jeu du plaisir. Il y a certains bugs, certains désagréments, mais dans le fond, un jeu vidéo, hein, les graphismes, oui, c'est important, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de facteurs, mais au bout, ce qui est important, c'est le fun, et j'en ai eu avec Dead Rising. Un achat recommandé, vous avez assez d'heures de jeu pour que ça vaille la peine, tandis qu'une location, ben, vous n'aurez pas le temps de faire le tour vraiment de toutes les possibilités qu'offre le jeu. Alors, 7.5 sur 10 pour Dead Rising 3, exclusivité Xbox One.
Ah, c'est bon.
Et c'est ce qui fait le tour de nos sujets pour cette semaine.
Ben oui, regardons ça.
Regardons ça. Luc, vas-y donc avec la façon qu'on peut te rejoindre sur le web.
Ben, sur Twitter, @Calazormo. Et puis, c'est ça, vous pouvez aussi me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji. J'écris sur le monde de l'automobile, souvent des essais ou des choses comme ça. Cette semaine, je publie un petit billet sur le Salon de l'Auto de Genève, dont je n'étais pas présent. J'ai fait ça à distance. Donc, vous pouvez me lire sur fr.kijijiblog.ca. Puis on recommence le podcast auto là, la semaine prochaine. Fait que s'il y en a de vous qui écoutaient ça, ben ça revient à partir de la semaine prochaine avec Jean-Benoît comme animateur. Fait que ça va être bien meilleur.
Bon, bien meilleur, c'est relatif. Là. On verra bien. On verra bien que ça va donner. On trouvait que j'étais pas assez. J'avais pas assez d'affaires à dire dans le podcast auto et toi, t'en avais trop. Fait qu'on a comme splitté la tâche de
balancer.
On a balancé ça un peu. Ça. Toi, Daniel, de ton côté.
Moi, je vous invite à fermer les yeux cette semaine et à questionner votre conscience. Vous allez voir, je vais vous parler.
Ouais, hein? Prier ouais. Un peu.
La voix de la raison.
T'es comme Jiminy Cricket, quoi?
Non. Ben oui, oui.
La conscience. Ouais.
Mais plus gros.
Ouais, ouais avoue que t'aimerais ça avoir sa shape.
Pas mal. Moi, honnêtement, je vous invite pas à m'inviter sur votre épaule. je le dis comme ça, là. Jiminy Cricket, lui, il aimait ça être ses épaules. Pas moi.
À moins que vous êtes un grand fan de vous faire déboîter un épaule.
Genre. Donc, si vous voulez toujours être en quête de raison et d'illumination et me trouver sur votre chemin, vous pouvez toujours aller sur Twitter au DracoADG. Et sinon, sur affairesdegars.com. Donc, mes publications s'y retrouvent. Prochain article de jeu, je sais pas ce que ça va être, mais prochain article de criminalité, ça va porter sur le fameux Dahlia Noir. Donc, je vous invite à checker ça.
Il y a eu un film là-dessus, hein?
Il y a eu deux films là-dessus. Ouais, hein? Ça a été un phénomène culturel. Ça a été beaucoup repris par les médias parce que le crime est assez morbide.
Il n'a jamais été résolu, hein, si je me trompe pas.
Non, jamais. Ah. On n'a jamais trouvé de tueur.
Ça, ça pique la curiosité.
Oui, mais en tout cas, bref, vous lirez l'article si vous voulez en savoir plus. Et regardez le film. C'est en 2006 que c'est paru de Brian De Palma.
Yes, Black Dahlia.
Yes.
Et moi, de mon côté, Twitter @gangj_b, le Twitter officiel de la réalité augmentée @realitéhog. Sur Facebook, facebook.com/realitéhog. On va le dire dans le bon sens, ça va peut-être aider. On a une adresse web. On a une place où est-ce qu'on se retrouve sur le web, realitéhog.com. Et on a une adresse courriel aussi, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez jaser avec nous autres, vous avez des commentaires, des suggestions, des envies de vous exprimer en bien ou en mal contre nous. Vous avez une note à nous donner, iTunes accepte les notes des étoiles, c'est comme vous voulez. On s'est jamais vraiment cassé la tête avec ce bout-là, mais j'ai vu cette semaine qu'on avait eu 4 étoiles sur 5, donc on est à 80% bon, semble-t-il. On a de la marge de manœuvre pour s'améliorer. Donc, si vous voulez nous donner des notes...
On va changer l'animateur.
Oui, c'est ça, ça devrait aider. ceci étant dit, donc, merci d'avoir été des nôtres pour l'émission cette semaine. Ce fut encore une fois un plaisir. Et on se retrouve à une prochaine fois pour un autre élément avec vos trois gardements préférés. Merci. Salut là.
Salut.
Bye.